France Inter.
Ok, les limites planétaires.
Ça fait un petit peu peur. J'ai 65 ans, donc moi j'ai fait mon temps ici. Mais pour les jeunes générations, je crois qu'ils vont pas avoir le même monde du tout.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro extrêmement important de Zoom Zoom Zen, car il en va aujourd'hui de la survie de notre planète en ce mardi 23 avril, au lendemain de la Journée mondiale de la Terre. Oui, à un jour près, Cyril Lacarrière avait visé juste, ne lui jetons pas la pierre. Nous allons zoomer sur un concept dont vous entendez de plus en plus souvent parler, sans savoir exactement ce qu'il recouvre, le concept de limite planétaire. Notre Terre souffre, et pour visualiser à quel point l'homme la martyrise, des scientifiques ont inventé cette notion de limite, afin qu'on puisse visualiser ces points de bascule environnementaux dont certains sont déjà dépassé parfois largement à l'heure où on se parle. Une émission qui, vous vous en doutez, n'est pas née dans l'esprit de Cyril, dont la consommation annuelle de viande rouge représente la consommation annuelle d'un pays comme le Honduras. Non, cette émission a été voulue par la seule personne dans cette équipe qui se soucie vraiment de l'environnement, Ghislain Fontana, notre réalisateur décroissant, qui, outre quelques MST, est revenu de Formentera plein d'idées. Égéripier de la célèbre marque Birkenstock, Ghislain effectuait là-bas une retraite méditative dans un écolodge en bambou sans wifi sur le thème de la reconnexion à la nature. Un enfer sur terre pour Manon, un paradis pour lui. Car c'est là-bas, un matin, alors qu'il méditait à l'intérieur d'un autre membre de la communauté, car il avait pris l'option tantrisme, que notre réalisateur a eu l'illumination. Dans un monde où les limites planétaires seront bientôt toutes dépassées, la seule chose qui nous restait à faire, c'est de veiller à ne pas dépasser nos limites à nous. Il prenait alors une décision radicale. En rentrant à Radio France, il demanderait à la direction de passer au 4/5. Alors évidemment, la direction lui ferait peut-être valoir que 4/5 d'un mi-temps, on serait plus très loin de l'emploi fictif. Peut-être, mais qu'importe. En sortant d'Edmundo, sa décision était prise. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Bonjour, excusez-nous, Agnès Ducharme, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Agnès, vous êtes climatologue et hydrologue, directrice de recherche au CNRS. Vos recherches portent sur les relations entre l'eau et le climat et l'anthropisation, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la façon dont les humains transforment leur environnement.
C'est ça.
Et jusque-là, pour l'instant, pas d'erreur. Alors Agnès, vous allez nous expliquer ce qu'on entend par limite planétaire et à quoi ça sert. Juste le temps de vous présenter ceux dont on peine à cerner les limites. Deux journalistes qui, un jour, que ce soit par la reconnaissance légitime de leur travail rédactionnel ou en payant, auront leur carte de presse. Pour l'instant, la commission des journalistes leur refuse encore le précieux sésame. Et comme Manon, je cite, ne sait pas comment on envoie un recommandé, l'affaire piétine. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Mathieu,
c'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce que vous avez dit, Manon.
Non.
Et c'est cette phobie administrative, elle
alors
vous empêche
ça,
d'avoir la carte de presse.
Non, mais je savais pas qu'il était possible d'envoyer un recommandé via Internet. Cyril me l'a appris.
Quand on a WhatsApp sur son ordinateur,
Cyril, le facétieux pédagogue, vous enseigne tellement de choses, Manon.
Vraiment,
Alors, Manon, expliquez-nous ce qui nous attend dans votre veille sanitaire, l'actu des réseaux sociaux aujourd'hui.
Eh bien, un événement fait beaucoup parler. Au jeu streamer, c'est son nom. Il va avoir lieu ce week-end à la Défense Arena. Il réunit des créateurs de contenu et des journalistes qui vont s'affronter sur des épreuves des Jeux Olympiques. Le principe est cool et pourtant ça n'a pas l'air d'attirer le public. Je vous explique pourquoi dans ma veille sanitaire.
Face à vous Agnès, il est notre maillon faible en matière d'écologie, comme quoi il y a vraiment jeune et jeune. Hein. Le but de Greta Thunberg dans la vie, sensibiliser suffisamment de dirigeants pour sauver le climat. Le but de Quentin Lui dans la vie, facturer suffisamment de chroniques pour s'acheter une Ducati Monster. Deux salles, deux ambiances qui résument bien le fossé qui existe au sein même de la jeunesse aujourd'hui en matière de combat écologique. Le seul moment où ce fou du guidon ne pollue pas, c'est lorsqu'il réalise son micro-trottoir à pied dans les rues de la capitale.
J'avoue que je suis plutôt zéro carbone finalement dans le cadre de mon travail.
Oui, uniquement dans le cadre de votre...
Sans doute pour me déculpabiliser du reste.
Oui,
je suis venu vous parler de ces limites planétaires que vous évoquent-elles, en quoi sont-elles effrayantes, vos réponses dans la prochaine demi-heure. Dans ce micro-trottoir sans limite et complètement à la rue.
Évidemment. Vers 16h30, on jouera avec les films catastrophes qui ont essayé de nous alerter sur le péril climatique, en vain en ce qui concerne Quentin. En fin d'émission, nous serons rejoints.
Souvent,
vous partez avec un temps d'avance, je le dirais, c'est 2012, vous êtes le seul à l'avoir vu plusieurs fois en salle. En fin d'émission, nous serons rejoints par la conscience verte de la bande, Rosa Burstein. Mais d'abord, il faut poser quand même la question qui vient tout de suite à l'esprit quand on commence à parler des limites planétaires. Agnès Ducharme, à quoi ça sert de définir des limites planétaires si c'est pour dire immédiatement après que la plupart d'entre elles sont déjà dépassées? C'est pas juste anxiogène?
C'est un des buts quand même de créer un tout petit peu d'angoisse, mais c'est aussi pédagogique, du coup, dans ce sens. Et l'idée, c'est comme pour beaucoup de choses en environnement, de faire réagir les gens et de leur faire comprendre en présentant les choses de différentes manières sur les limites de notre planète, parce qu'elles existent.
Oui, et puis l'expression limite est forte, donc elle nous interpelle forcément. En bout de table, Agnès, déjà passablement grognon, voire acariâtre en temps normal, quand il n'a objectivement aucune raison de râler. Je vous présente celui qui, depuis hier soir et ma dernière story Instagram, chante en boucle.
Mais elle n'est pas contente, Mathieu.
En cause, un malheureux oubli de ma part qui a oublié de le taguer sur une photo d'équipe. Or, vous connaissez l'ego boursouflé hein, du La Carrière. Vous savez que je vous aime, Cyril, comme on aime un vieux tonton de droite qui a l'alcool mauvais. Mais je vous aime quand même très fort, vous le savez, ça.
Oui, je
c'est
le
juste
sais.
Un oubli.
Mais il y a des preuves d'amour, Mathieu.
Oui, mais j'ai oublié juste. Ça arrive au
c'est
meilleur.
Mal. Ma mère n'est pas contente, je vous l'ai dit.
Oui, votre mère doit savoir que Mathieu s'écrit avec...
De T,
voilà, c'est important pour votre maman. Alors, maintenant que vous êtes rassuré, Cyril, dites-nous les limites planétaires, d'où ça sort ?
Je vais commencer par dire attention. Attention à ne pas confondre limites planétaires et jour du dépassement.
Oh là là.
Ça n'a rien à voir. Et vous savez quoi ? Quand on a parlé la première fois du sujet, j'ai moi-même confondu les deux. Le jour du dépassement...
Non, attention !
Eh bien oui. Le jour du dépassement, c'est le jour dans l'année où nous avons épuisé toutes les ressources que la Terre peut reconstituer. En 1971, c'était le 25 décembre, l'an dernier, on avait déjà tout consommer le 2 août. Flippant, peut-être, mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle donc des limites planétaires, et ça, c'est encore un coup des Suédois. C'est en 2009 que le concept de limite planétaire voit le jour, et on le doit à un certain Johan Rockström. Ne vous laissez pas tromper par mon « certain », comme si le gars était un vulgaire quidam. Johan Rockström, c'est une pointure. Je cite le International Science Council. Rockström est un scientifique de renommée internationale sur les questions de durabilité mondiale. Ça va mal, Mathieu.
J'essaie de me cacher pour tout ça, mais visiblement, ça s'entend.
Le genre de personne, en tout cas, qui fait référence, comme Quentin, lui, dans le milieu du micro-trottoir. Bref, c'est Rockström et son équipe de chercheurs de Stockholm qui ont défini ce que sont ces limites planétaires dont on parle aujourd'hui. Une notion qui a depuis été adoptée par les Nations Unies, l'Agence Européenne de l'Environnement et la Commission Européenne. Parlez-nous de ces fameuses limites, Cyril. C'est la question que vous alliez me poser.
Ben, je ne voulais pas vous la poser, vu qu'elle n'était pas écrite, si vous voulez, sur ma version du douce assort. Donc, je ne sais pas de l'inventer, mon vieux.
Il existe 9 limites planétaires, et j'ai pris la décision de toutes vous les citer. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, le changement d'usage des sols, l'acidification des océans, l'utilisation de l'eau douce, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère, et l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. Il y en a 9, et sur les 9, 6 ont déjà été dépassées. Autant dire qu'on va dans le mur, à cause de qui ? Eh bien des humains, puisque ces limites ont été créées afin d'avoir une vision globale des impacts environnementaux provoqués par les activités humaines. Alors, à quoi servent encore ces limites si on les a allègrement dépassées ? Faut-il en créer d'autres ? Peut-on revenir en arrière ? Qui décrète qu'une limite est franchie ? Est-ce que le destin de la planète est aux mains d'un Suédois ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Agnès Ducharne, excellente question, encore une, j'ai envie de dire, de Cyril La Carrière. Qui décrète qu'une limite planétaire est franchie ?
Eh bien, Johan Rockström.
Tout seul ?
Non, pas tout seul. En fait, le concept a connu une grande popularité au sein de la communauté scientifique et plein de chercheurs différents, d'équipes différentes ont repris ces concepts, l'ont développé et cherchent à définir leurs propres critères pour établir si, oui ou non, dans les 9 secteurs considérés ou pour d'autres limites, elles sont dépassées ou pas.
Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a au sein de la communauté scientifique une forme de consensus autour de ces limites. Il n'y a pas de débat, ça ne s'écharpe pas pour savoir, oui, on a dépassé, non, on n'a pas dépassé, quel est le chiffre ?
En fait, il y a un consensus sur le fait qu'il existe des limites planétaires. Mmh. Sur la manière de les caractériser, c'est quand même beaucoup moins consensuel et c'est tout le sel de faire de la recherche, c'est que en fait, on discute et il y a des échanges. Voilà.
La dernière limite qui a été dépassée, c'était tout récemment d'ailleurs, il y a quelques mois, c'est la limite planétaire sur l'eau douce, visiblement. Elles sont toutes importantes, hein, mais celle-ci, elle est vraiment flippante.
Elles sont toutes flippantes, en fait.
J'essaie de me rassurer comme je peux. Hein.
Elles sont toutes flippantes. La seule sur laquelle on ne sait rien dire pour l'instant, c'est sur les aérosols atmosphériques. Je ne sais pas exactement pourquoi, à vrai dire, mais les chercheurs spécialistes n'arrivent pas bien à le quantifier. Et donc, il y en a 6 qui sont dépassées, donc l'eau douce en dernier. Et de toute façon, même pour celles qui ne sont pas encore dépassées, on se rapproche d'un certain seuil qui constitue la limite. Et pour celles qui sont déjà dépassées, en plus... on s'en éloigne de plus en plus du seuil. Donc, il faut peut-être d'abord définir le mot.
Oui. Hein,
et donc, il s'agit de définir des seuils de fonctionnement dans l'environnement, sur les secteurs dont Cyril a parlé, qui, quand on reste à l'intérieur de ces limites, on est dans une zone qui est qu'on peut considérer comme sûre pour l'environnement. Mmh. C'est la zone de sûreté environnementale, on va dire. Safe operating zone, disent les Anglais et les Suédois. Et si on en sort, à ce moment-là, on est dans une zone de sûreté qui diminue et on devrait enclencher le principe de précaution pour essayer de retourner dans la zone sûre.
Alors après le constat, justement, on va parler de la réaction tout à l'heure. À l'heure d'une première pause musicale, Cyril insistait pour nous chanter a cappella. Mais j'ai demandé à ce qu'on écoute un titre plus en rapport quand même avec notre thème du jour. Manon, vous avez ouvert votre playlist Spotify dans mes plus écoutés. Vous êtes immédiatement tombé sur les Vampas.
Oui, bah vous en doutez, c'est mon groupe fétiche. Alors j'avoue que je connais pas beaucoup leur répertoire musical. Mais celle qu'on va écouter, c'est quand même un tube, le morceau Manu Chao. Évidemment, c'est un clin d'œil au chanteur de la Mano Negra. Les Vampas se moquent gentiment des personnalités et des groupes qui se veulent contestataires alors qu'ils sont privilégiés. Ils parlent aussi de Louise Attaque dans la chanson et dans une interview est cité aussi Noir Désir. N'est pas punk qui veut, on écoute Manu Chao des Vampas.
Je sonne dans les glaviots, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au bois jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au mois jusqu'à Pâques. C'est beau la Normandie comme le dit ma grand-tante Marie, mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé, je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao. J'irai en vacances seulement à Salo. Et j'ai pas de la classe comme Didier Vampas. Je resterai pour les vacances tout seul avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque, la Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
C'était un des tubes préférés de Manon Mariani. Vous avez entendu parler des limites planétaires, mais que recouvre cette notion exactement? On en parle cet après-midi avec notre invitée, l'hydrologue et climatologue Agnès Ducharne. Agnès, pour qu'on comprenne bien, le concept de ces limites planétaires, il est indissociable de celui d'anthropisation dont on parlait tout à l'heure. On peut être affirmatif là-dessus. Sans l'action de l'homme, aucune de ces limites n'aurait été franchie aujourd'hui?
Ça, c'est tout à fait exact, oui. Et la manière dont on caractérise en pratique le dépassement de ces limites planétaires et les seuils dont on a parlé précédemment, c'est en faisant référence à une période de l'histoire de l'humanité qui est assez longue, c'est les 10 derniers milliers d'années.
Oui, c'est pas mal.
Depuis qu'on est sorti de la dernière glaciation, en fait. Donc, le climat s'est réchauffé et il a été très stable, en fait, pendant ces 10 dernières années. Et c'est ça qui a permis le développement de toutes les civilisations humaines, la sédentarisation, tout ça. Et donc, il est stable, le climat, autour d'une moyenne, qui n'est pas la même au pôle Nord et à l'Équateur, évidemment. Mais dans toute région de la planète, on peut parler d'une moyenne. Et puis, il y a une variation, des variations climatiques autour de cette moyenne, saisonnière, à l'échelle, pendant une journée, et puis d'une centaine d'années à une autre. Il y a plein de facteurs qui font que le climat est stable autour de la moyenne, mais avec des variations. C'est ce qu'on appelle la variabilité naturelle. Et finalement, les limites planétaires caractérisent pour le climat comme pour les autres secteurs environnementaux qui sont considérés dans ces études-là, la zone de variabilité naturelle en la séparant des changements qui sortent de la variabilité naturelle parce qu'ils sont induits par l'homme, justement.
Et ça, donc, on le voit très clairement. En fait, les limites planétaires, c'est une leçon pour tous ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique, par exemple. Ça, c'est un peu...
La limite planétaire changement climatique, c'est sur le changement climatique et ça peut se décliner donc sur la biodiversité, la pollution, etc.
Alors, on a vu que 6 limites ont déjà été dépassées parmi elles. Lesquelles l'ont été, si j'ose dire, encore plus que les autres, sont à un niveau encore plus critique. C'est sur quel point qu'il faudrait agir le plus vite aujourd'hui, en 2024.
Alors, moi, mon sentiment personnel, c'est que la plus importante, c'est le changement climatique. Parce qu'elle elle a des conséquences sur tout le reste.
Les autres, oui.
Et sa cause, la cause du dépassement des limites planétaires climatiques, donc c'est lié aux émissions en gaz à effet de serre, à la combustion des énergies fossiles. Et l'énergie qui est apportée à ça, c'est la source de toutes les autres dégradations de l'environnement, qu'il s'agisse de créer des polluants, de détruire des niches écologiques et d'éroder la biodiversité, de fabriquer des engrais, etc. et d'acidifier les océans.
Mais là, il y en a 9 aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait en rajouter? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, dans 15 ans, il y en aura 13?
On pourrait tout à fait en rajouter.
Qui prend la décision?
Si un scientifique décide de choisir un secteur, par exemple, là, il y a Excusez-moi, je reprends mon petit papier. La perturbation des cycles biogéochimiques sur le phosphore et sur l'azote, si on veut rajouter là-dedans la silice, par exemple, ou si on veut travailler sur donc la silice, le sable, l'utilisation du sable, et c'est une limite, ou si on veut travailler sur les limites en minéraux, pour les activités humaines, ressources minières,
en fait,
etc.
Il peut y avoir plus de limites qu'il y en a actuellement. C'est juste qu'il faut qu'un scientifique s'en empare et définisse que tel secteur est une limite. Moi, j'ai lu un papier il y a quelques jours qui m'a effrayé, qui expliquait que la baisse des émissions, de la pollution pouvait entraîner un réchauffement supplémentaire de la planète.
C'est exact. Oui.
Mais alors ça, c'est un peu effrayant parce qu'on ne peut pas lutter dans les deux sens. Il faut bien qu'on fasse baisser la pollution.
Il faut qu'on fasse baisser la pollution et en même temps qu'on fasse baisser la température. En fait, quand on brûle des combustibles fossiles, on émet des petites particules qui flottent dans l'air qu'on appelle des aérosols et dont la plupart, en fait, ont un effet par rapport au rayonnement solaire de le réfléchir et de le renvoyer vers l'espace. Donc ça nous fait un petit parasol, finalement, qui n'est pas du tout naturel et qui a comme effet indésirable de donner de l'asthme, des maladies respiratoires, etc. Donc il y a eu des politiques de santé publique qui ont visé à diminuer ces émissions en aérosol en mettant des filtres au niveau des cheminées par exemple, ou des voitures, et ça a marché. Et donc depuis 10 ans, on constate une diminution des teneurs en aérosol dans l'atmosphère, mais en même temps on constate que le réchauffement planétaire va un petit peu plus vite qu'avant depuis cette période-là, et c'est lié.
Il y a, Agnès, deux types de citoyens éco-responsables. Le citoyen éco-responsable qui attend fébrilement le prochain rapport du GIEC et le citoyen éco-responsable qui attend fébrilement le prochain Grand Prix de Formule 1 à Miami. C'est ce deuxième type de citoyen éco-responsable que je vous propose d'écouter à présent. Quentin, une fois de plus, vous êtes allé... Oui, c'est un Grand Prix important pour vous, je crois. Quentin, une fois de plus, vous êtes allé à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour.
Et alors, j'ai commencé par cette jeune femme qui ne me croit pas au moment où je l'arrête.
Tu veux que je te montre ma carte Radio France?
Ouais.
C'est vrai?
Allez.
Attends, dis-moi ce que tu crois.
Que t'as volé ça, je sais pas qui, dans la street, t'as fait ouais, aujourd'hui je vais faire le reporter.
Tu penses que j'ai volé le micro France Inter?
Mais why not? T'as vu créer l'interaction sociale, tu t'es dit...
Oui, je me suis dit je vais draguer avec le micro de la première Radio de France, bah bien sûr, allez, soyons sérieux, deux minutes, c'est avec un amour pour le terrain et le service public chevillé au corps que je réalise ce micro-trottoir. Une fois que je lui ai montré la totalité de mes papiers, je fais la connaissance de Lily May, 20 ans, étudiante, elle découvre...
Les limites planétaires. Est-ce que ça étonne quelqu'un ici? Je ne crois pas, non.
Qu'est-ce que t'en penses à 20 ans?
Je pense que c'est chaud, hein. Ça va être compliqué, hein. Mais on est sûr que ça va s'améliorer, hein. Qu'il va y avoir une prise de conscience.
J'ai l'impression que tu n'y crois pas trop.
Ah non, j'y crois pas trop. Hein. Tu veux participer au débat?
Sur quoi?
Les limites planétaires.
Non.
Non. Ok, il n'est pas là-dedans.
Ils ne sont du tout concernés.
Voilà, donc il y a des gens qui ne se sentent pas concernés comme ça.
Voilà, si même les jeunes s'en foutent. Je salue Lily May, 20 ans, à qui je viens de saper un peu plus le moral pour le reste de la semaine. Je marche le long de la Seine et il y a ce monsieur qui me regarde. Vous savez, cette sensation de connaître quelqu'un, mais on ne sait plus vraiment d'où.
Bonjour.
On s'est déjà vu?
Oui, on s'est déjà vu.
Où ça?
Oh, en Dry Janvier, à la Place des Nations. Ah, on s'est déjà rencontrés.
Pour le Dry January. Voilà. Là, c'est autre chose.
OK. Les limites planétaires. Ça fait un petit peu peur. J'ai 65 ans, donc moi, j'ai fait mon temps ici. Mais pour les jeunes générations, je crois qu'ils vont pas avoir le même monde du tout. C'est littéralement, ils vont avoir les vraies difficultés.
Tony et son accent me parlent alors d'un exemple qui l'a heurté la semaine dernière.
Dubaï qui était inondé et ils investissent sur semer le nuage pour qu'il pleut, mais ils n'ont pas construit le réservoir d'eau pour récupérer de l'eau.
2 ans de pluie qui sont tombés en 2 jours.
En 2 jours, c'est ça. Ça montre qu'on prend rien au sérieux. Trop de pétrole, trop de nucléaire, trop d'énergie comme ça, on détruit la planète. Oui, mais moi, il faut que j'aille au boulot.
À bientôt.
Comment tu t'appelles?
Quentin.
Quentin. Quentin, comme les prisons.
La prison?
C'est le prison de Saint-Quentin en Californie. Johnny Cash a fait « San Quentin, I hate you ».
San Quentin, may you rot and burn in hell.
Johnny Cash, en 1969, qui jouait pour les prisonniers, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme, cheveux bruns, courts, écharpe à carreaux et son impair, beige clair.
Bonjour. Je m'appelle Agnès, j'ai 25 ans et je suis une formation de couture en 1 an.
Je lui demande si elle voit de quoi nous parlons aujourd'hui.
Les limites planétaires. Bah, les limites planétaires, ça dépend. Enfin, je sais qu'il y a le jour de, enfin, la consommation totale des ressources.
Ça, c'est le jour du dépassement.
Ouais, le jour du dépassement.
C'est pas pareil.
Donc climat, les lignes rouges de la planète bleue, température, biodiversité, eau douce, une quarantaine d'experts viennent de publier un diagnostic sombre dans la revue Nature. Sur les 8 seuils qui rendraient la Terre inhabitable, 7 ont déjà été franchis, d'accord? Donc c'est ça les limites planétaires.
Exactement, et sommes-nous en train de scier la branche sur laquelle l'humanité est assise?
Bah, les modifications brutales, oui, ça me fait penser au réchauffement climatique, ne pas dépasser 1,5 degré, bon, ce qui va clairement être fait, et c'est plutôt déjà le cas dans certaines zones du globe, si on les prend en cas par cas. Par exemple, je sais qu'à Paris, on a déjà dépassé un réchauffement 1,5 degré. Mais je pense que c'est difficile de pas être touché par ça. Il y a des gens qui sont plus ou moins climato-sceptiques, mais je pense qu'ils sont quand même angoissés parce que c'est des choses qui peuvent matériellement prendre beaucoup de place dans le quotidien, que ce soit les inondations, dans le Nord, la sécheresse possible en Occitanie, là, dont tout le monde parle, en Catalogne.
Les exemples ne manquent pas, ils font souvent la une, des graphiques alarmants au rapport du GIEC. Je lui demande si tout ça l'inquiète.
J'ai très très peur. Hein. Enfin, je veux dire, même pour l'avenir politique, je me dis qu'on est juste en bout de course et que on va peut-être arriver à quelque chose de beaucoup plus contraignant. Enfin, avec le confinement, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais en fait, face à des phénomènes d'une telle ampleur qu'on ne peut pas arrêter autrement que par une décision politique radicale. En fait, moi, c'est surtout ça qui me fait très peur. Je me dis que d'ici 2030, on ne sera peut-être pas forcément dans un régime aussi entre guillemets permissif que celui dans lequel on est. Et ça rentre aussi en compte et c'est un peu effrayant.
Un sentiment d'impuissance et de culpabilité pour certaines générations. Après tout, si la nature nous rattrapait pour de bon et qu'une politique autoritaire s'installait pour sauver la planète, la vie des futures générations deviendrait-elle une sorte de prison? Heureusement, il y aura toujours Johnny Cash. And happiness I've known proves that it's
right because you're mine. I walk the line.
Maintenant, je vous sens plus Johnny Cash que Les Vents Passent.
Hein. J'adore cette chanson.
Ouais, on l'aime tous. Avoir confiance, oui, on peut avoir confiance, modérément quand même, dans l'avenir. Avoir conscience des limites planétaires va-t-il nous permettre justement de sauver notre planète? On continue d'en parler avec vous, Agnès Ducharme. Je rappelle que vous êtes climatologue. Intéressante cette réflexion d'Agnès, 25 ans. Ce qui l'effraie aussi, ce sont les politiques menées en réaction, ou pas d'ailleurs, à ces limites planétaires franchies.
Ah, ça m'inquiète aussi, c'est peut-être parce qu'on a le même prénom.
Oui, ah oui, oui. C'est vrai, ça s'appelle Agnès. Mais il pourrait y avoir des mesures qui pourraient se mettre en place drastiques pour contrer une limite qui serait dépassée?
Je pense que pour une limite qui serait dépassée, enfin, à part celle du climat qui a une influence sur les autres très forte, comme je l'avais dit, je ne suis pas sûre. Mais de toute façon, on en a franchi 6. Il y en a 2 autres où c'est ras les fesses quand même. Et puis ça, on s'éloigne de cette zone de sécurité environnementale. Et donc quand on est en dehors de cette zone, quand il fera trop chaud, quand en même temps qu'il y aura trop d'eau par endroit, pas assez d'eau à d'autres, et que la pollution sera partout, c'est le règne du struggle for life qui devient inconcevable. Et à ce moment-là, il faut une régulation politique. Elle peut être de différents types, évidemment.
Mais du coup, on dit on les a dépassés, mais on peut revenir en arrière ou c'est impossible?
Je pense qu'on peut revenir en arrière. Et c'est différent, une limite planétaire et un point de bascule. Un point de bascule, c'est un point de fonctionnement de l'environnement où le changement devient irréversible.
Oui. Ah, voilà.
Donc, par exemple, un exemple typique, c'est celui de la fonte du Groenland ou de l'Antarctique.
Ah, une fois que ça sera fondu.
Il faudra qu'on rentre dans une nouvelle période glaciaire dans 100 000 ans. Donc, c'est réversible, mais pas aux échelles de temps qui nous intéressent.
La limite, on peut la dépasser, mais on peut revenir en avant.
On peut revenir en avant, mais par exemple, si on prend le cas du changement climatique, la limite planétaire par rapport au réchauffement climatique, elle est posée en termes de concentration en gaz à effet de serre à 350. De l'unité CO2 qui est le PPM, la partie par million.
On est millionième.
À l'heure actuelle, on est à 420.
Ok, d'accord. Voilà une bonne nouvelle.
Et donc, moi je suis née à 327 PPM.
Et ça peut redescendre.
Et comment, comment ça peut redescendre?
Ça peut redescendre, mais ça sera très difficile, j'y crois pas une seconde, qu'on soit clair. Mais pour que la concentration en CO2 et en gaz à effet de serre dans l'atmosphère baisse, il faut qu'on supprime nos émissions. Complètement.
Totalement.
Tant qu'on en rajoute, ça ne peut pas baisser.
Oui, bien sûr, mais ça, on ne pourra pas. Parce qu'il
ou alors, il faut des technologies qui seraient capables de capter le CO2. Ouais. Ça existe pour l'instant. Ouais. Ils font un petit peu ça en Islande, mais c'est à toute petite échelle. Ouais. Et avant de le déployer suffisamment massivement, ce n'est pas demain la veille.
Le technosolutionnisme, on vous renvoie à cette excellente émission.
Tony mentionne Dubaï, où il a plus de 2 ans de pluie en 2 jours la semaine dernière. J'imagine que vous avez vu cette image. C'est une alerte au fait qu'on atteint les limites planétaires, ça, ou pas du tout? La vie pourtant continue son cours.
Je suis pas sûre. Les limites planétaires, quand même, planétaires a un sens. Il est important dans le mot. C'est-à-dire que pour caractériser ces limites planétaires, il faut regarder l'ensemble de la planète. Et s'il y avait que Dubaï dans le monde, ça traumatiserait personne à part les gens de Dubaï. Ce qui crée par rapport à la limite planétaire sur l'eau douce, le fait que on dit qu'on a dépassé. Franchi cette limite, c'est que il y a non seulement Dubaï, mais il y a aussi Barcelone, il y a aussi Bogota qui est en sécheresse alors que c'est un pays tropical humide, etc. Et donc c'est la multiplication de ces événements extrêmes finalement, hors des limites de la variabilité naturelle dont on a parlé précédemment, qui fait que on peut affirmer qu'on dépasse la limite planétaire sur la ressource en eau douce.
Pour vous, ce qui compte, c'est que vos enfants puissent vivre sur une planète où l'air est respirable, ou que Charles Leclerc soit sur le podium à Miami. Si vous ne faites pas partie de la team Quentin, mais de la mienne, celle des écolos humanistes qui veulent le meilleur pour notre belle planète Terre, alors écoutez la suite de notre émission sur les limites planétaires avec notre invitée Agnès Ducharme, à qui on posera la grande question. Face à l'inaction des gouvernants, faut-il à un moment prôner la désobéissance civile? Cyril dit non, mais qu'en pense Agnès? Réponse juste après le Zoom Zoom Test et Luther, journal de quête sur Inter.
J'accorde plus trop ma confiance.
confiance, un sourire, tu sais pas ce que ça cache. On vient prendre la température de 3 snaps et on s'arrache. Quand je les vois, moi je me la raque. TMTC, qu'on se refait pas. Elle était moche ma vie quand on traînait le soir et qu'on se levait pas. J'ai du zèle pour les mauvaises choses. La para, c'est 5 ans et avec elle, rendez-moi mon temps. J'ai trop la rage pour essuyer ma peine. J'ai quelques lingettes qui traînent. La flemme de passer le permis, je reste avec la plaquette qui freine. Oh là là, fallait voir ma tronche quand j'ai fait mes premières tunes. J'ai pris un dimanche, une paire de baskets, j'ai adopté une nouvelle attitude. Tu passais de squatter le vieux banc à tartifume. À me faire CUS par des népos, des bourgeois avec des noms à particules.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. Je pouvais taille, briller, je fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. Je pouvais taille, briller, je fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
Kid, je trouvais pas grand chose d'archi lourd. Seul, ma mère m'a acheté mon PC, c'était archi lourd. Sun, kill sur kill. J'ai une enfance digitale, je me canne devant l'ordi avec mes digiballes. Faire le bien ça fait sentir mal. Je veux bien prendre 20, 50, 100 cachés Bolloré. Mais je me trouverais quand même honorable, pas me sentir honoré. Tout est gris, rien n'est coloré. Qu'est-ce qu'on se fait chier sa mère? C'est souvent du toc si les rêves qu'on te propose sont trop dorés. Porter le poids du vide, ça te donne un mal de dos. Ça me fait mal au cocher, c'est qui le mec qui chiale dans le studio? Même quand fait beau, j'irai porter des habits chauds. J'aimais déjà pas la lumière, déjà petit je me cachais sur les vidéos.
Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. Je pouvais taille, briller, je fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds. Ils pensent savoir ce qu'on a dans les yeux, mais ils sauront jamais, c'est comme ça. Je pouvais taille, briller, je fais les deux. J'fous le feu pour casser les nœuds.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il estime avoir été volé hier dans le quiz, alors même que la régie lui soufflait les réponses dans le casque. Quentin lui part aujourd'hui avec un net avantage, puisqu'il est dans l'équipe, je le rappelle, le seul à connaître par cœur le film Catastrophe et Catastrophique 2012 de Roland Emmerich. Jouons au Zoom Zoom Test spécial film Catastrophe écologique. À la découverte donc de ces films qui ont tenté de nous sensibiliser, plus ou moins finement, au danger du dérèglement climatique. Et on commence par celui sur lequel Cyril Lacarrière a été conseiller technique, le cultissime Sharknado, l'attaque des requins volants.
Ah, c'est de la bombe, Sharknado.
Une série de films à moyen budget que je décrirais comme du Cyril Dion en plus fun. Et dont le but est de nous alerter sur le 127e danger qui nous pend au nez après la fonte des glaces, la chute de la biodiversité et la déforestation, la possibilité donc que des requins nous attaquent par les airs. D'après vous, Manon, Quentin, sur quel élément du dérèglement climatique actuel est fondée l'idée qu'un jour des requins puissent nous attaquer en plein Paris? Si on met évidemment de côté la théorie selon laquelle les scénaristes de Sharknado n'auraient eu aucune notion d'écologie, juste beaucoup de cocaïne.
Ah oui, c'est...
Pour vous, si les requins devaient un jour voler, ça serait parce qu'il fait de plus en plus chaud, parce que le niveau de la mer monte de plus en plus, ou parce que la rotation de la Terre ralentit?
C'est
B.
Pour vous, c'est une question de rotation, de la Terre.
Pourquoi c'est B?
Pour vous, c'est le niveau de la mer qui monte de plus en plus. Et donc, à force de monter, ils vont finir par sauter. Ils vont être à hauteur de... Ils vont pouvoir sauter. Mais vous êtes des bulles intergalactiques. C'était la réponse A. Oui, mais c'est trop tard, Manon. Comme dans la garçonnière de Quentin à Montmartre, il fait de plus en plus chaud sur Terre, vous le savez. Et ça a un impact sur l'ampleur des phénomènes météorologiques, parmi lesquels les tornades, qui pourraient gagner en puissance grâce... puisque le carburant des tornades, comme vous le savez, c'est l'air chaud. Des tornades si dévastatrices qu'elles aspireraient les requins pour les recracher à l'intérieur des terres, voire, comme dans Sharknado 6, les requins font du ski en haute montagne. Il existe. Hein. Alors, on ne pouvait pas démarrer ce quiz sans évoquer Sharknado, qui est vraiment le film référence des experts climatiques. Agnès l'a vu 5 fois en salle. Mais d'autres films ont tenté, parfois avec une ambition plus modeste, de souligner les dangers du dérèglement climatique. Je pense notamment à Soleil Vert. de Richard Fleischer, fable dystopique sortie en 1973, dont je vais vous révéler le twist final. Donc si vous comptez le voir, bouchez-vous les oreilles. Manon Quentin, dans ce film qualifié par Télérama d'écolo-humaniste, on découvre un monde à bout de souffle où toutes les ressources viennent à manquer et où les gens deviennent dépendants pour se nourrir d'une pilule vendue par une entreprise nommée Soylent Green. D'après vous, dans cette œuvre assez prophétique qui alerte sur les dérives d'un système qui s'auto-alimente et s'auto-détruit en même temps, rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui donc, que découvre-t-on à la fin ? Que nous sommes tous devenus sans le savoir des robots ? Que nous sommes tous devenus sans le savoir des anthropophages ? Ou pire, que nous sommes tous devenus sans le savoir des végétariens ?
Si !
C'est drôle. C'est
la réponse de Manon.
Ah, moi je dirais pas, j'ai pas d'inspi aujourd'hui.
Très bien. Donc pour vous, dans Soleil Vert, quand même, un film culte.
Je pense que c'est là.
Les gens sont devenus des robots. On découvre ça à la fin.
75, ouais, ça marche.
Et vous, Manon, là, on devient végétarien. Ce qui serait vraiment une chute, un rebondissement absolument incroyable.
C'est ça.
C'était évidemment la réponse B. La réponse B. Bon appétit, pas sûr. Cyril Lacarrière, qui était aussi conseiller technique sur Soleil Vert, avait dit au réalisateur que ça serait hyper choquant qu'on apprenne à la fin que la petite pilule était en fait du chou kale, parce que c'est dégueulasse. Non, avait rétorqué le réalisateur, ce serait encore plus fort si on découvre que c'est de la chair humaine dans ces petites pilules. Oh, la chair humaine, c'est bon, ça reste de la viande, soupirait Cyril, pas convaincu. Finalement, c'est Richard Fleischer qui a eu le dernier mot, et Soleil Vert est devenu un film culte. Cyril, lui, va être blacklisté à Hollywood jusqu'en 2017, où Netflix vient le chercher. Alors déjà, pour le remercier de ne pas avoir lancé sa chaîne de vidéoclub Vidéo Avenir, qui aurait certainement freiner le développement de la vidéo à la demande dans les années 2010, et puis aussi parce qu'il est l'homme de la situation, pour superviser le film Okja, premier film 100% Netflix à être présenté au Festival de Cannes. La collaboration avec le réalisateur Bong Joon-ho se passe bien. En même temps, comme le dit Cyril lors de leur première rencontre, ça peut que bien se passer, j'adore les bibimbap. Heureusement, Bong Joon n'avait pas compris cette phrase.
Le résultat,
donc Okja, un film iconoclaste qui interroge un aspect des limites planétaires qui parle particulièrement à Cyril. Notre consommation excessive de viande, notre consommation excessive d'alcool ou notre consommation excessive d'eau.
Viande, viande.
Je l'ai dit.
Vous l'avez dit même plus rapidement, Manon. Pour vous, c'est la viande.
Mais vous n'avez pas dit A ou B ou C. Donc
vous l'avez vu ? Je ne dis jamais A, B, C, je donne les réponses.
Non.
Vous l'avez pas vu ? C'est donc sur une intuition, vous êtes parti comme
jamais. C'est pas ça.
Vous dites jamais A, B, C, c'est comme ça qu'on répond ?
Vous le savez que c'est ABC, en même temps quand je dis trois fois, je pourrais dire 1, 2, 3. Vous savez, je pourrais dire X, Y, Z, je pourrais dire aussi. Réponse A, Manon, bravo. Oui, Okja pose la question de notre consommation excessive de viande. Dans un futur proche, une société agroalimentaire met au point une race de cochons génétiquement modifiés, géants, gros comme des hippopotames. Ils sont envoyés aux quatre coins du monde pour grandir en liberté, avant bien sûr qu'une fois leur taille adulte atteinte, l'entreprise vienne les chercher pour en faire du sauciflard. Cyril voulait retirer du scénario l'histoire gnangnan de la gamine qui s'attache aux cochons et veut le sauver, jusqu'à ce que Bong Joon lui explique que c'était en fait le cœur du film. Ils se sont brouillés et c'est comme ça que Cyril a fini sur Sharknado 6, car je cite, faut bien payer les roast beef de Denis. Victoire de Manon Mariani.
Ouais, vraiment petite victoire.
C'est sûr que...
pas de merci à tous, non ?
Non, pas de merci à tous aujourd'hui.
Vous avez la victoire très modeste aujourd'hui, Manon.
1-0, Mathieu.
Oui, c'est vrai que vous avez très mal répondu aujourd'hui.
Très mal.
Agnès Ducharme, climatologue, directrice de recherche au CNRS, est toujours avec nous pour zoomer sur ce qu'on appelle les limites planétaires. Et Agnès, derrière votre côté chercheuse, sérieuse et tout, vous êtes aussi une rebelle. Vous avez signé, il y a 4 ans, aux côtés de 1000 autres scientifiques, une pétition prenant une forme de désobéissance civile face à des gouvernements inactifs en matière d'environnement. C'était il y a 4 ans. Alors déjà, on en est où ? Est-ce que vous trouvez que les gouvernements en font suffisamment ou qu'au contraire, cette question des limites planétaires n'est pas suffisamment prise en compte ?
Non, ils ne font pas assez, c'est évident. Et j'avoue que je suis un peu déçue de l'efficacité de cette tribune qu'on avait signée juste avant le Covid. Il faut trouver autre chose pour secouer un petit peu le système. Les limites planétaires, c'est une manière de faire, être ici aussi.
Et alors l'idée de désobéissance civile, ça vous parle ? Est-ce qu'il faut en arriver là, tout simplement ? Si les gouvernements ne nous entendent pas, est-ce qu'il faut désobéir ?
La désobéissance civile non violente, c'est ça dont il était question c'est pas de l'éco-terrorisme. Ça permet d'investir le champ public, d'attirer des médias aussi sur des questions qui peuvent être variées. Il y a des collègues qui sont intervenus aux assemblées générales de Total, d'autres en marge du salon de l'agriculture, faire des die-in pour représenter à quel point les pesticides sont toxiques, etc. Ça se décline de plein de manières. Il y a des procès derrière. parce que les personnes qui font ce genre d'action sont assez fortement réprimées à l'heure actuelle.
Mais ça permet de faire parler.
Et ça permet de faire parler, notamment au moment de l'action, au moment des procès, etc.
Ça devrait quand même nous inquiéter un peu plus que ça, en tout cas les politiques, cette question des limites planétaires, parce que j'ai lu, vous allez me confirmer si c'est vrai, que le réchauffement était plus rapide encore en Europe qu'ailleurs dans le monde. C'était une zone particulièrement touchée par ce réchauffement climatique.
De manière générale, l'ensemble des continents se réchauffent plus vite que les océans, parce qu'il y a moins d'eau à la surface, enfin, et l'eau a un rôle thermorégulateur. Les endroits qui se réchauffent le plus vite, c'est les pôles, en fait. Donc pôle nord, pôle sud, avec la fonte des glaces et moins de réflexion des rayonnements solaires par la glace et la neige.
Quentin ?
Quelle marge d'action ont les gens comme nous, monsieur, madame, tout le monde, dans cette histoire ? Est-ce que les quelques efforts qu'on peut faire au quotidien sont utiles ou pas du tout, ou dérisoires à ce genre d'enjeu ? Est-ce que vous encouragez les gens à faire attention sous la douche, etc.
Ah oui. Ah
ouais.
À faire attention sous la douche, à manger moins de viande, parce que
quand
on
Cyril.
Fait des gros cochons, en fait, ils ont bu beaucoup d'eau, ils ont mangé beaucoup de nourriture, souvent du maïs qui a été produit en consommant beaucoup d'eau. Et puis en émettant beaucoup de gaz à effet de serre, enfin les cochons moins que les vaches, mais quand même, il faut aussi consommer moins d'énergie, moins d'électricité.
Mais ça a vraiment un impact, on peut le quantifier ça.
Ah bah oui, bien sûr. En fait, imaginons-nous au début de la révolution industrielle. Donc les gens se sont mis à utiliser du charbon, à brûler du charbon pour avoir de l'énergie et fabriquer plein de trucs et se déplacer. À l'époque, il y avait 280 ppm de CO2 dans l'atmosphère.
PPM,
on est maintenant à 420, donc on a augmenté de 50% quand même en 150 ans. Mais ça n'inquiétait pas particulièrement les gens, à part quelques hurluberlus scientifiques. Engström, par exemple, qui a eu un Nobel, c'était un Suédois sûrement encore. donc il a eu un Nobel autour des années 1900, il s'est posé la question avec plus de CO2 dans l'atmosphère, est-ce que ça va réchauffer la planète et tout. Il a travaillé sur le concept de gaz à effet de serre. Mais pour la plupart des gens, ça paraissait une petite goutte d'eau dans la mer. Mais cette petite goutte, petit à petit, elle s'est amplifiée, etc. Et on peut faire la même chose en retirant. C'est-à-dire, les gouttes, elles peuvent être négatives. Donc nous tous, chacun, à notre mesure, on a un vrai impact sur la chose. Ensemble, évidemment. Tous ensemble. Ouais.
On va y arriver.
Mais ça ne suffit pas, par contre. Les individus ont un rôle à jouer, mais les organisations, donc les États, les grandes multinationales, les organisations internationales ont aussi un rôle à jouer.
Pour être concret, Agnès, parce que les gens, ce qui nous oppose toujours, c'est qu'ils disent « mais moi j'ai les fins de mois qui sont compliquées, donc j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça ». Quand on parle de ces limites planétaires et des effets, effondrement de la banquise, dégel, j'ai lu du pergélisol, je sais même pas ce que c'est, ralentissement des courants océaniques, effondrement de la biodiversité, quel impact concret ça a pour les gens qui nous écoutent ? Qu'est-ce que ça va changer que les courants océaniques se ralentissent ?
Ben, le courant, par exemple, le courant océanique, nous, qui influence notre climat en France, c'est le Gulf Stream et la circulation atlantique méridienne qui nous apporte de la chaleur, en fait, depuis le Golfe du Mexique, donc dans les Caraïbes. Si ce courant s'arrête ou ralentit ou change de direction, pas au même endroit qu'à l'heure actuelle, ça va refroidir l'Europe. Notamment l'Europe de l'Ouest. Alors on pourrait se dire que, puisque le climat se réchauffe, si on arrive en fait à le refroidir, nous au moins en Europe, ce sera bien, mais on ne sait pas en fait à quel point refroidir, si ça sera déjà suffisant ou si ça ne sera pas trop, et c'est quand même jouer aux apprentis sorciers.
C'est sûr que si on ne peut plus aller à Saint-Tropez en août, profiter d'une eau à 26 degrés, effectivement,
Mathieu.
Ça n'a plus d'intérêt. Attention à ces
cours. Vivre,
à quoi bon vivre, effectivement, Quentin. Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, et elle, que fait-elle pour sauver la planète ? On mettra Rosa Burstein devant ses responsabilités, mais d'abord je me tourne vers vous Manon, d'une part parce que je vous aime, deux fois plus par exemple que Cyril Lacarrière, c'est pour ça qu'hier sur ma story Insta, je vous ai tagué deux fois et lui zéro.
J'avais même pas remarqué,
normal. Mais d'autre part parce que j'ai très envie de savoir ce qui agite les réseaux sociaux, sans pour autant me salir les mains en y allant moi-même, votre veille sanitaire est là pour ça, et aujourd'hui vous nous parlez d'un événement qui ma foi fait débat.
Au jeu, streamer, c'est son nom, 32 personnalités du web et de la télévision vont s'affronter ce week-end dans une compétition inspirée des Jeux Olympiques. Ça se passe à la Défense Arena près de Paris. 20 000 personnes sont attendues. Un événement organisé par France Télévisions. Escrime, tennis de table, basket, foot, escalade. En tout, les concurrents s'affronteront sur 8 disciplines et seront répartis en 8 équipes. Parmi les participants, on retrouve les streamers Domingo, Brox et Rivenzi, les youtubeurs Théo Babac et Juju Fitcat, sont encore les journalistes de France Télé, Mélanie Taravant et Jean-Baptiste Marteau, pour ne citer que. Sur le papier, bon, c'est plutôt une bonne idée et une belle façon de promouvoir les JO à 90 jours de leur lancement. En plus, la compétition va être transmise sur le compte Twitch de France TV, animé par Samuel Etienne, qui est devenu l'un des streamers les plus improbables mais populaires de France, et oui. L'événement sera aussi en live sur la chaîne de Zerator, hein, qui compte plus d'1,5 million de followers sur Twitch. Bref, France TV a mis les petits plats dans les grands pour que au jeu streamer soit un carton.
Mais je sais pas pourquoi, Manon, mais je sens qu'il y a un mais.
Évidemment, car selon le média d'investigation L'Informé, le public ne serait pas au rendez-vous pour assister à l'événement. Ils disent que, je cite, les organisateurs ont dû réduire de moitié le nombre de places mises en vente et qu'ils multiplient les opérations promo. France TV a voulu miser sur la popularité de ces personnalités du web, hein, qui comptent plus des millions de followers, en espérant que ça suffise à attirer du public, mais manifestement, eh ben, ça n'est pas le cas.
Comment vous l'expliquez ?
Eh ben, déjà, n'est pas Squeezie qui veut, car au jeu streamer est clairement inspiré du GP Explorer, hein, l'événement créé et organisé par Squeezie depuis 2 ans, une compétition de Formule 4 dans laquelle s'affrontent des personnalités d'Internet sur le circuit du Mans. Elle est aussi retransmise en direct sur Twitch, et les deux éditions ont battu des records d'audience, en plus de se jouer à guichet fermé. Les 60 000 places de la deuxième édition se sont vendues en 30 minutes. Et ça paraît plutôt logique, car Squeezie a toute une communauté de fans derrière lui, là où France TV reste une chaîne du service public qui ne manie pas forcément bien les codes des streamers. La preuve, dès l'annonce de Au jeu streamer, il y a eu une polémique. 2 participants ont été évincés après que des personnes se soient révoltées de leur présence dans la compétition sur X. D'un côté, la tiktokeuse Openia, accusée d'avoir fait la promotion d'un site de rencontres pédophiles, et de l'autre, Thibaut InShape, le deuxième youtubeur de France, qui cumule beaucoup de polémiques à son actif. Certains le trouvent trop de droite, trop mascu, voire raciste.
Mais donc c'est plutôt une bonne chose que France TV ait pris les mesures.
Oui, après, il y a tellement de créateurs de contenu aujourd'hui que c'est quand même facile d'en sélectionner qui n'ont pas de polémiques sur le dos. Et puis annuler des participants à cause de quelques tweets pas contents, j'ai envie de dire, ça fait pas très sérieux pour une chaîne du service public de renom. Et ça, on tâche l'image positive, hein, qu'ils veulent donner à leur événement avant même qu'il ait commencé. En fait, c'est un peu l'arroseur arrosé, car ça montre aussi que vouloir faire du contenu pour les jeunes en s'immisçant dans leur culture n'est pas si facile que prévu. Pourtant, aujourd'hui, c'est le rêve de toutes les chaînes. Danse avec les stars a fait une version star d'Internet. Le jeu Les Traîtres sur M6 va aussi avoir le droit à une version avec des personnalités d'Internet. Elles veulent renouveler leurs audiences vieillissantes en apportant de la jeunesse. Mais pour ça, il faut bien s'entourer et ne pas être juste émerveillé par l'appel des millions d'abonnés des uns et des autres. Le public de Twitch n'est pas le public de France TV. Il ne suffit pas de mettre des créateurs de contenu dans un bocal, de le secouer et oups, d'espérer que ça cartonne. Eh ben non, faut être créatif, hein. C'est ça que veut le jeune public. C'est pour ça qu'ils suivent leurs streamers préférés, pour des personnalités, des contenus qui changent, des propositions, pas pour voir les codes de leurs parents mixés aux leurs. Et sur le papier, OG Streamer a plus l'air de ressembler à Fort Boyard qu'au GP Explorer. En tout cas, pour le moment, rien ne dit, hein, que OG Streamer sera aussi un four sur Twitch, même si personnellement, je suis pas très optimiste, hein, surtout quand je vois que la bande-annonce de l'événement a fait à peine 8500 vues sur YouTube. C'est un peu triste. On peut s'attendre au pire, Mathieu.
Écoutez, merci Manon, j'ai pas très bien compris ce que vous aviez contre Fort Boyard.
Non,
je
mais j'adore.
Je me permets de vous rappeler que je suis
Sa
toujours
musique, peut-être,
je suis toujours à date le détenteur du record de l'épreuve dite du percolateur à café géant, l'année où Patrick Cohen avait failli se noyer dans les douves du fort. C'est le vrai. Pire c'est que on dirait que j'invente, mais tout ça est vrai.
C'était en noir et
c'est
blanc.
Fou. C'était effectivement en noir et blanc.
On pourrait le faire bientôt, non ? Moi, j'aimerais trop.
Bah écoutez, on attend qu'il nous le propose, mais personnellement, je n'y retournerai pas.
Ah bon.
On revient.
Sans vous, il n'y a pas d'intérêt.
Ouais, voilà. Pour Cyril
Zoom Zoom Zen revient. Les amis, avec Rosa Burstein, juste après Tiki Mazda 1-1 sur Inter.
You're money of a guy that I let go. You're money of a friend that got too close. You're money of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one. No money of a guy that I let go. Your money of a friend that got too close. Your money of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one. Started friendly, ended with some promises empty. Blocking all these messages you sent.
patience is dangerous to play. It's giving me basic and it ain't enough. Could have been weighing my options, not wasting my time. Now I know I can't mind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one one. See, tryna bang on my line. Give me back all my keys. I'm tired of letting you inside. I can lie. Almost had a moment where I tried. Let it go overnight, overhyped. Drop your like. Testing my patience, it's dangerous to play. It's giving me basic and it ain't enough. Could have been weighing my options, not wasting my time. Now I know I can find me out. The guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one one. You remind me of a guy that I let go. You remind me of a friend that got too close. You remind me of a man that lied to hold me up. You playing games on the low, but you ain't one.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Contrairement aux limites planétaires, elle est loin d'être dépassée. Bonjour, meilleure vanne de l'année. On peut mettre une cymbale. Bonjour Rosa Burstein.
Bonjour Mathieu.
Alors Rosa, avec les limites planétaires, avons-nous atteint les limites de votre patience pour les sujets compliqués ?
Non Mathieu, jamais. Grâce à votre émission, je repousse mes limites d'humoriste. Vous ne m'avez pas encore proposé un petit sujet sur l'excision, tiens. Bah pourquoi pas ? En attendant, les limites planétaires, 6 ont été dépassées, la dernière étant l'eau douce qu'on peut désormais mais qualifié d'eau vénère. J'ai voulu en parler hier soir à un dîner dans la famille de mon père pour Pessah, la Pâque juive. On mange pas d'œufs en chocolat mais des matzot, du pain sans levain parce qu'on aime souffrir. Mon oncle Bernard, psy lacanien, était parti dans l'une de ses diatribes sur l'esclavage et la sortie d'Égypte pour dériver vers Hitler et l'orgasme féminin. S'il était un bon psy, je pense qu'il devrait analyser le fait que ces deux sujets reviennent à chaque repas, toujours dans cet ordre. Quand je l'ai interrompu pour rappeler qu'avec le réchauffement climatique, on allait se retrouver à nouveau dans le désert. Plus de mer qui s'ouvre en deux, car plus de mer tout court. Camille Etienne serait Moïse, notre sauveuse, et le rapport du GIEC, l'étape de la loi. Là, ma cousine Yael est partie en vrille. Non mais stop, Rosa. T'as vu ce qu'il a plu, là ? Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas vu ça. Si t'es si écolo, t'as qu'à la récupérer, la flotte, et te laver le cul avec ! Négationnisme climatique, insultes sur le physique, mépris de classe, le tout en une phrase. Certes, ma cousine est une connasse méprisante, mais elle a la politesse de le faire avec concision, certains diraient même avec circoncision. Je lui ai répondu, bah tu crois pas si bien dire, Yael. Je tire pas la chasse d'eau à chaque fois, mais que lorsque ça s'accumule, avec la litière du chat, ses crottes, les nôtres, et là, ok, on peut tirer. Bon oui, ça sent un peu, mais on a une bougie pour masquer l'odeur. Yael a explosé de rire. Parfum lilas, j'imagine, comme votre banlieue de babos. J'ai pas insisté. Discuter avec des climato-sceptiques, c'est un peu comme chier dans de l'eau potable, du gâchis. Si tu leur dis que c'est à cause des émissions de CO2 que les océans se réchauffent, ils sont capables de te sortir. Mais les avions, ils sont dans l'air, pas dans la mer. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Moi, je prends de moins en moins l'avion, mais c'est pas vraiment à mon honneur. C'est parce que j'ai des soucis d'oreille interne. Donc la pression me donne des nausées, des vertiges. Même en mâchant du chewing-gum, ça arrange rien. Ça me fait juste péter. Mais je l'avouerai jamais à ma cousine. Elle veut de la bobo qui se croit au-dessus de tout le monde. Elle en aura. J'ai la solution, moi. Et si à la place de diamants dans les poches, les riches avaient des cristaux dans les oreilles. Ils prendraient moins leur jet et tout le monde aurait plus d'or bleu. Alors, est-ce que ce sont des blagues pour ORL ? Oui, peut-être. Un petit peu. Mais les ORL, ils ont du pouvoir d'achat, ok ? Ils réservent pour mon spectacle. Je peux pas compter que sur mon public de féministes pigistes aux cheveux roses. Pour conclure, j'ai peur des limites planétaires qu'on va encore dépasser, comme des plaies d'Égypte. Et vu l'état de la biodiversité, on n'aura pas une invasion de sauterelles, mais plutôt l'orage de grêle. Le réchauffement climatique va plonger l'Europe dans un froid polaire. Ce sera Game of Thrones. Sans les dragons, mais avec des mammouths. Il y a un laboratoire américain qui investit des millions pour fabriquer un œuf avec de l'ADN extrait d'un fossile. Pourquoi empêcher l'extinction d'espèces vivantes quand on peut ressusciter celle de la préhistoire ? Allez, si on modifie la génétique d'éléphants, faisons aussi parler les baleines, donnons-leur une voix, qu'elles soient capables de râler, encore plus fort que des Français.
Encore plus fort que Cyril Lacarrière, ça serait vraiment un prodige de la science. Merci Rosa Burchan, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Agnès Ducharme, grâce à vous, on pourra désormais placer cette référence aux limites planétaires dans les dîners. J'ai hâte de faire un dîner, le dernier c'était en 2019. Merci à tous les amis, Manon Mariani, Quentin Louis, Cyril Lacarrière, à la technique on salue Adèle Caglar, à la réalisation celui qui même au 4/5 d'un mi-temps continue d'assurer comme un chef, Ghislain Fontana qui a déjà mis son manteau, il file, il a un casting pied chez Havaianas. On remercie également celle qui nous aide à préparer cette émission, Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Sybille Boulieu. Demain, pour contrebalancer un peu le côté anxiogène de notre émission sur les limites planétaires, on zoomera sur les PFAS, les polluants éternels. La mauvaise nouvelle c'est qu'ils sont absolument partout, la bonne c'est qu'on sait pas encore à quel point ils sont dangereux. Alors, oh les cœurs, à demain 16h et jusqu'ici tout va bien. Marie Missé, Marine Bamson, bonjour.
Hello bonjour. L'équipe, salut Mathieu Noël. Aujourd'hui on reçoit le rappeur Turi.
Il est nommé à la cérémonie des flammes qui aura lieu dans 2 jours.
Et vous Mathieu Noël, vous êtes comment en battle?
Je joue quand vous voulez en battle de rap.
Moi, c'est parti.
Je suis très très fort là-dessus. Quand vous voulez. Sur du MC Solar uniquement en revanche.
Bien sûr.
A tout de suite.